L'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de migrants. Et je pense que nous pouvons tous tomber d'accord là-dessus. Le bon travail doit se faire à la base, à la source, pour chercher des solutions de paix dans ce conflit du Moyen-Orient qui conduit beaucoup de migrants qui sont en fait des réfugiés politiques. Et puis, pour les autres, pour des raisons économiques, c'est un autre combat. C'est le combat pour une croissance économique et une répartition un petit peu des richesses. Voyez. Donc, la situation de migration n'est pas encouragée, n'est pas une bonne chose en soi. C'est la reconnaissance, malheureusement, d'une situation de fait qui fait que des gens manquent de liberté ou sont persécutés pour leur croyance, c'est le cas des chrétiens dans de nombreux pays au Moyen-Orient, ou qui sont victimes de précarité économique de leur pays.
Mais maintenant, ces migrants sont là et vous écrivez qu'il nous faut les accueillir.
La visite du pape François à Lampedusa en 2013, en juillet, puis ensuite à Lesbos là, au mois d'avril l'an dernier, tout cela, bien sûr, a secoué l'opinion publique. Et nous-mêmes, prêtres, évêques, ne pouvons pas être indifférents à cela, surtout les chrétiens. Le pape nous rappelle, il rappelle aux Français, il rappelle aux Allemands, il rappelle à tout le monde, à toute l'Europe, qu'elle a un devoir d'accueil et d'ouverture envers les migrants. Et ce drame des migrants qui se heurtent à nos frontières, qui vont d'un campement à l'autre, parfois dans des conditions de précarité, et dans toute l'Europe, tout cela nous concerne tous. C'est pourquoi, je ne suis pas à l'origine de cette lettre, mais on m'a demandé de signer, je l'ai fait de bon cœur, parce que j'y vois une marque de fraternité et de solidarité entre catholiques français, catholiques allemands, entre chrétiens et, disons d'une manière générale, entre citoyens français et citoyens allemands, pour aider ces gens-là. Il ne s'agit pas du tout de favoriser l'immigration, ni de l'encourager. Et nous sommes placés devant une situation de fait, un défi. On a beau penser ce qu'on veut, ça sera comme ça pendant quelques mois encore, tant que nous n'aurons pas trouvé la solution à de nombreux conflits politiques et relevé des défis de croissance économique dans d'autres pays. Pour ne pas rester comme ça indifférent à celui qui nous tend la main et qui demande d'être accueilli dans la dignité.
Un devoir d'accueil vis-à-vis du migrant et notamment du mineur isolé. Pourquoi avoir focalisé votre lettre sur ces mineurs non accompagnés ?
Parce que le Saint-Père a attiré notre attention là-dessus. Ce sont les plus fragiles. Ce ne sont pas des mineurs qui ont 5 ans, 6 ans, 8 ans, soyons bien d'accord. Ce sont des jeunes gens qui ont un garçon et fille qui ont 14, 15 ans, 16 ans. Alors parfois, ils partent pour rejoindre un oncle, la famille ou des parents qui sont déjà partis en avant-garde. Ils partent en France, par exemple, ou en Allemagne, dans l'espoir d'aller en Angleterre. Mais l'Angleterre n'en veut pas parfois. Nous sommes quand même placés devant un défi particulier par rapport à un migrant normal. Un migrant normal, c'est une personne qui est adulte, en tout cas. Il a des moyens pour se défendre. Un enfant de 16 ans, il n'a pas la maturité d'un adulte. Et puis, en plus de ça, il est susceptible d'être victime d'escrocs, de gens vicieux, de sortes de choses comme ça. Il nous appartient d'attirer l'attention de tous nos frères chrétiens et, d'une manière générale, de l'opinion publique sur la situation de précarité toute particulière des personnes mineures.
Vous parlez d'une charité active. Vous encouragez chaque chrétien à le faire et à se demander comment est-ce qu'on peut contribuer. Vous vous félicitez déjà de ce qui existe au sein de l'Église notamment. Vous dites qu'il faut, cela dit, élargir des propositions. Est-ce que vous avez des idées ?
Quand on a des migrants chez nous, des réfugiés par exemple, la moindre des choses, c'est qu'ils se sentent accueillis. Alors bon, au plan matériel, je pense que nous sommes capables de faire l'effort financier pour leur apporter des couvertures, leur apporter des repas, des choses comme ça. Et c'est un gros effort que font de nombreux chrétiens. Mais en apportant notre temps, en apportant notre cœur, en apportant notre sourire, en apportant des cours de langue pour qu'ils se sentent accueillis. Et toutes nos institutions éducatives doivent être mises davantage à contribution, mais surtout la bonne volonté, vous savez, la bonne volonté des gens. On peut faire beaucoup de choses quand on est entouré de bonne volonté, même si on n'a pas des gros moyens matériels. Ces gens-là, ils ont besoin de se sentir. Vous savez, quand ils passent dans des camps précaires comme ça pendant plusieurs mois, c'est pas drôle, vous savez, même s'ils ont de quoi manger et s'ils sont au chaud, ils sont quand même dans des camps. Alors si nous pouvons leur apporter un peu de chaleur humaine et leur apprendre notre langue, ça change tout. Et si nous pouvons partager, leur transmettre notre foi, pas forcément par des exposés ou de l'endoctrinement, pas du tout, par le témoignage concret de notre foi, que notre charité soit active et l'évangile sera annoncé. C'est pas moi qui le dis, c'est un Pierre dans une de ses lettres.
Donc tâchez de leur apporter l'évangile par le témoignage.
Si ces gens-là viennent chez nous, ils viennent en Europe, ils ne vont pas sur un autre continent, ils viennent dans des pays chrétiens où il y a une grande tradition catholique. C'est, mine de rien, d'une manière indirecte, la reconnaissance que dans ces pays de culture chrétienne, ils se sentent accueillis. Que dans ces pays de culture chrétienne, il fait bon vivre. Que dans ces pays de culture chrétienne, la dignité de l'homme est respectée puis qu'on y vient pour se protéger contre ceux qui, justement, ne respectent pas les libertés publiques, ne respectent pas la liberté de l'homme, ne respectent pas les différences religieuses et sont incapables d'assurer à la population la croissance économique. ou la sécurité économique, à défaut de croissance. Vous voyez? Donc, il y a à travers ce mouvement une reconnaissance implicite d'un art de vivre chrétien. Il ne s'agit pas de chanter cocorico en disant « c'est nous les meilleurs », pas du tout. Il s'agit de dire que l'Europe, qui malheureusement ne s'en souvient pas, est marquée par l'Évangile, marquée par l'Église, marquée par la culture chrétienne, et même si elle s'est sécularisée, elle ne peut pas effacer cette empreinte. Elle fait partie de ses gènes. Et les étrangers ne s'y trompent pas. Ils viennent chez nous. Ils ne vont pas ailleurs. Ils ne vont pas dans les pays du Golfe, qui sont des pays très riches, non ? Parce qu'ils n'y seraient pas accueillis. Ils viennent chez des chrétiens. Ça plaît ou ça déplaît à certaines personnes, mais moi je le dis. Et par conséquent, il faut que nous soyons à la hauteur de la confiance qui nous est faite.
On est dans une période électorale en France, enfin préélectorale. La thématique des migrants, des réfugiés est une thématique qui est récurrente dans ce genre de contexte. C'est la même chose en Allemagne. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que c'est répréhensible ? Comment est-ce que vous percevez la manière dont on aborde cette thématique qui touche des milliers de personnes qui vivent des situations dramatiques ?
Ces gens-là sont des pauvres. Il ne faut pas tout confondre. Ce sont des pauvres qui viennent chez nous. De l'autre côté, vous avez des Français et des Allemands, ben oui, qui sont inquiets parce qu'ils mettent l'étiquette migrant sur toutes sortes de personnes qui sont aussi des terroristes. On l'a vu en Allemagne avec l'attentat de Berlin, on l'a vu en France avec de nombreux attentats, à Nice et ailleurs, l'assassinat d'un prêtre également. Et donc, il y a une grande confusion dans l'opinion publique. Et de fait, il est certain que tous ces attentats sont le fait non pas de citoyens français ou allemands, mais de gens qui viennent de l'immigration. Donc, il y a une peur qui se crée dans l'opinion publique, elle est manifeste. Pour les célébrations de Noël, dans ma cathédrale, nous avions des soldats français qui étaient aux portes. Ben, les gens, ils voient ça. Ça leur rappelle les souvenirs d'autrefois, de la guerre. Mais qu'est-ce que c'est, dans quel pays on est ? Donc, il ne faut pas rigoler avec la peur des gens, parce qu'elle peut s'expliquer par, justement, cet excès de violence qui est le fait de fanatiques islamiques, qui sont certainement minoritaires, mais qui sont là. Et comme vous écrivez ou le disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, ce ne sont pas des bouddhistes, ce ne sont pas des taoïstes, ce ne sont pas des confuciens, ce ne sont pas des chrétiens qui font des attentats comme ça, ce sont des islamistes. Donc ça focalise l'attention, en plus de ça, sur une partie de cette population. Et les gens mélangent tout. Alors, il ne s'agit pas de leur dire vous êtes des racistes, vous êtes des fascistes, c'est ridicule, ça ne sait pas répondre à la question. Il faut bien faire une analyse sérieuse de la situation et leur dire, écoutez, bon, il y a, c'est vrai, des gens qui profitent que l'Europe soit un continent où il n'y a que des démocraties et où les libertés publiques sont assurées, y compris pour ceux qui ne respectent pas la démocratie d'ailleurs, et où on peut entrer très facilement et on peut passer d'un pays à l'autre. Il y en a qui en profitent pour des actes de violence. Mais la majorité des gens-là qui viennent chez nous, ils viennent chez nous pour travailler parce qu'ils viennent de pays pauvres, ou ils viennent chez nous pour trouver la paix, pour trouver la liberté, pour trouver la dignité, pour trouver le respect de leurs droits. Mais il y a tout un travail de pédagogie à faire en période électorale auprès de ces gens-là, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus montrer du doigt les autres qui ont peur en disant « vous êtes d'abominables fascistes ». C'est un comportement stupide qui ne peut d'ailleurs que faire monter cette crainte des gens et cette méfiance vis-à-vis des étrangers. Donc nous avons, en plus de l'accueil et de la pastorale, nous avons un travail pédagogique à faire pour expliquer à l'opinion publique. Mais ce n'est pas facile.
Dans ce contexte, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de faire un communiqué commun avec l'archevêque de Hambourg en Allemagne ?
D'une part, comme vous le dites, on ne focalise pas cette problématique sur le pays, en l'occurrence la France ou l'Allemagne. On dit que ça concerne l'Europe. Et puis comme on circule librement en Europe, un migrant qui arrive en Allemagne, il peut très bien se retrouver en France le lendemain. Et en même temps, c'est un double sens, c'est pour attirer l'attention, me semble-t-il, de l'opinion publique, alors en l'occurrence française et allemande, mais européenne, sur la gravité de la situation, enfin, et sur la question des enfants. Écoutez, quelle que soit leur situation, bien sûr qu'ils sont en situation irrégulière hein, par rapport à la loi, et on ne peut pas, comme ça, raisonner en termes uniquement juridiques, on ne met pas des enfants dehors comme ça. Vous voyez, nous sommes devant un problème humain et nous devons répondre en hommes qui sont pétris par la parole de Dieu et qui sont réalistes. C'est la synthèse de ces deux exigences. L'exigence de chrétiens qui nous pousse à être des humains accueillants pour nos frères et en même temps être réalistes pour ne pas déstabiliser nos sociétés. La déstabilisation de nos sociétés serait dramatique parce qu'elle donnerait des arguments à ceux, justement, qui peut-être ont des comptes à régler avec nos institutions. Vous voyez, si nous voulons assurer la stabilité politique des pays européens, nous devons à la fois relever le défi courageusement de l'accueil de nos frères migrants, mais en même temps avec beaucoup de réalisme, c'est-à-dire que l'administration française, et allemande en l'occurrence, prenne des mesures pour assurer la sécurité. Il est certain qu'un migrant qui profite de son statut pour tuer 14 ou 15 personnes le soir de Noël, une personne comme ça, eh bien évidemment, doit être arrêté et jugé, c'est bien évident. Et c'est le rôle de l'administration et de la police de prendre toutes les mesures de prévention pour que tous ces gens-là qui sont fichés comme des terroristes soient mis hors d'état de nuire. La fraternité, la charité, l'évangile, ça n'implique pas d'être des irresponsables. C'est le message qu'il faut dire à nos concitoyens. Et si nous le disons clairement, eh bien, je pense que de nombreux concitoyens passeront de la peur à l'assurance, à la paix, à l'espérance. Ils seront rassurés. Mais il faut vraiment que nous soyons à la fois des chrétiens et des citoyens responsables.